Sur FM.
Il est 16h32, on accueille la rédactrice en chef de l'Écho, Martine Mascal. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous dire bonsoir. Les résultats des Young Vision Awards édition 2012 sont connus en partenariat avec Pure FM. On peut revenir, même si vous l'avez déjà expliqué à cette antenne il y a quelques semaines de cela, sur l'opération et sur le concours.
Voilà, donc c'est la deuxième année consécutive qu'on organise ce concours qui fait appel donc à des jeunes, à des étudiants pour leur demander un article d'opinion dans lequel ils développent une idée, de préférence avec des solutions à la clé, quelque chose qui soit original. Nous, alors, on s'engage évidemment à lire toutes les productions. Cette année, Echo et Tade, ensemble, on a reçu 150 articles qu'on a évidemment...
Donc c'est un concours national, mais avec des lauréats
francophone ou néerlandophone. Voilà. Donc il y avait à peu près une centaine de candidatures du côté du Tade, une cinquantaine du côté de l'Écho. Donc on a tout lu, on a fait une première sélection de 10 articles et ensuite il y a un deuxième jury. Donc le premier jury, ce sont les journalistes de l'Écho. Deuxième jury, ce sont des gens qui sont davantage dans la société. Bon, il y a le gagnant de l'année dernière, il y a des chefs d'entreprise, il y a des universitaires, etc. qui lisent les articles aussi.
Quel était votre objectif, l'objectif de l'Écho et de Pure FM par ricochet?
Bon, à la fois d'attirer de jeunes lecteurs, d'attirer l'attention des étudiants sur notre journal, et en même temps pour nous de voir un peu ce qui se dit, ce qui se pense dans une communauté qui nous est moins directement liée. Je veux dire, instinctivement, on imagine que le lecteur de l'Écho est un petit peu plus âgé. Et nous, ça nous intéresse aussi de voir des opinions nouvelles, originales, qui sortent un peu de la boîte, parce que ce qu'on nous demande souvent en tant que journal, c'est de davantage faire appel à des opinions, à des choses nouvelles, à des idées originales.
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette édition, dans cette deuxième édition?
Ben, je trouvais que c'était de grande qualité.
Positivement ou pas, hein?
Oui, positivement ou pas. Alors, en tout cas, positivement, je trouvais qu'il y avait pas mal d'articles qui étaient de qualité, qui proposaient des idées originales et qui allaient un peu dans différents domaines, hein. Donc, il y a plusieurs étudiants qui parlent de l'enseignement, ce qui serait le cas aujourd'hui. Et ça, c'est logique parce que, je veux dire, ils sont dans un domaine qu'évidemment, ils connaissent et qu'ils vivent au jour le jour. Il y avait aussi pas mal d'articles à caractère économique sur la société de consommation, le productivisme, etc. D'autres qui s'interrogent sur la place des jeunes dans la société. Enfin, c'était très varié. Ça, je
trouve. Très théorique en même temps.
Et en même temps, voilà, ça c'est peut-être le côté négatif. Il y avait pas mal d'articles qui étaient pas mal écrit, qui avait un début, une fin, un bon développement, etc., mais qui ne proposait pas véritablement de solutions. Et nous, ça fait partie des critères de sélection, c'est qu'il y ait des solutions, des propositions concrètes qui figurent dans l'article.
Les quatre lauréats sont connus, on a mis d'ailleurs le lien vers le site internet, vous pouvez lire leur travail sur la page de l'émission et sur facebook.com/ONPDA. Je vous laisse présenter la première lauréate.
Alors, la première lauréate s'appelle Yoneko Nurtancio. Elle a écrit un article qui s'appelle « De la nécessité de booster la créativité de nos universités ».
Alors, elle est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous allez défendre votre sujet oralement le minimum de temps. C'est aussi un travail d'entrepreneur.
Oui, absolument.
On vous écoute.
Bien, voilà, Cédric, en fait, tout est parti de cette question que je me pose depuis un bout de temps, à savoir comment mieux préparer les universitaires de demain pour qu'ils puissent être capables de faire face à toutes sortes de situations nouvelles, étonnantes, etc. Et j'ai longtemps réfléchi à ce sujet, et je pense qu'en fait, il faut absolument que l'université arrive à entrer dans une nouvelle dynamique que j'appellerais la culture de la créativité. Et dans mon article, que je vous invite à lire, je propose une série de solutions assez concrètes finalement pour y parvenir. Donc, par exemple, l'idée serait de partager un même cours entre plusieurs titulaires. Donc, pour toujours montrer à l'étudiant qu'il y a plusieurs façons d'aborder un problème, de le considérer, d'y répondre. Donc, ne pas avoir de vision unilatérale finalement sur un sujet. Une autre idée que je propose serait de créer des plateformes de discussion pour permettre aux étudiants de se rencontrer s'ils sont de niveaux différents, de facultés différentes. Et le but de ces plateformes serait de faire germer de nouvelles idées, en fait, à partir de cette discussion, puisque c'est clair qu'on a tous des personnalités très différentes, d'autant plus que l'on vient, de type d'enseignement ou d'endroits.
De
oui,
niveaux différents.
Niveaux différents, et d'autant plus si on vient de filières différentes. Il y a encore d'autres propositions qui se trouvent dans l'article et je ne vais pas toutes les énumérer ici. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas pouvoir simplement réutiliser demain les solutions qui ont bien fonctionné hier. Donc ça va être absolument nécessaire dans les prochaines années, parce que le monde change, parce qu'il y a de plus en plus de facteurs qui entrent en jeu tous les jours, de faire attention à rester sans cesse prêt à sortir de nos routines. Et c'est pour ça que l'université doit parvenir à créer des gens innovants, plein de créativité.
Quel est le lien avec l'entreprise et avez-vous envie de devenir entrepreneur ?
C'est une question difficile, mais ça dépend dans quel sens on entend entreprise. À vrai dire, j'aimerais d'abord personnellement faire de la recherche à l'université. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et après ça, je vais voir. Est-ce que ce sera la recherche qui sera le coup de cœur pour toujours ou bien est-ce que justement je choisirai de plus m'investir dans le monde hors de l'université, hors de la Tour d'Ivoire, c'est à voir, sans doute bien, mais il faudra à ce moment-là que ce soit quelque chose qui me porte, comme ce sujet-ci par exemple, ou autre chose que j'aurais découvert à ce moment-là.
Martine, qu'est-ce qui vous a attiré en tant que rédactrice en chef de l'Écho dans ce texte et dans ce travail précisément ?
Moi, ce qui m'a attiré dans ce travail, c'était bon, non seulement les propositions de solutions, mais ça, on en a déjà un petit peu parlé, c'était aussi l'originalité du propos. Par exemple, quand la lauréate dit que on ne peut pas continuer à donner, en tout cas pas de la manière dont on le fait actuellement, un libre accès à chacun à l'université sans se poser de questions et puis en laissant tout le monde se débrouiller, il y a un problème.
C'est très intéressant et très tabou aussi.
C'est très tabou aussi. Alors, est-ce que l'université est guettée par le nivellement par le bas ou qu'est-ce que vous proposez comme solution ?
Oui, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui en Belgique parce qu'on veut absolument se battre pour l'égalité. Et l'égalité des chances, c'est une très bonne chose. Mais simplement, je propose de repartir finalement de la Constitution des droits de l'homme, d'où on tire cette idée. Et je cite ici, j'ai l'article 26 en partie qui dit ceci. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous, en fonction de leurs mérites. Et en fait, je pense qu'on a oublié cette partie-là du texte, c'est-à-dire qu'on veut absolument ouvrir les études supérieures à tout le monde et n'importe comment. Or, ce que je propose n'est pas de revenir à une université où on doit repayer plus cher pour pouvoir entrer, certainement pas, parce que là, ce sont des acquis auxquels je pense qu'il ne faut pas toucher. Par contre, il est vraiment nécessaire de repenser aussi dans quel état d'esprit est-ce que j'entre à l'université, à savoir, est-ce que finalement... D'après le parcours que j'ai eu en secondaire, j'ai les capacités suffisantes pour arriver, mener à bien cette première BA, où on sait que le taux de réussite est finalement très faible. Et je pense qu'une des solutions à apporter, même si à nouveau c'est très tabou et c'est pas vendeur du tout, ce serait de réinstaurer une sorte d'examen d'entrée. Et donc de dire simplement, pas de numerus clausus, pas un nombre fixe d'étudiants qui peuvent démarrer, mais simplement dire il faut avoir des capacités minimales, à partir desquelles on peut commencer à construire quelque chose en première BA. Et ce qui est très important, je tiens vraiment à le souligner, c'est de dire qu'il ne faut pas juste ce test, donc prendre soi-disant les bons et laisser tous les autres de côté, pas du tout. Mais au contraire, se dire, bon, si maintenant certaines personnes ont échoué à cet examen, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie pour arriver à ce qu'eux aussi puissent entrer à l'université un jour, ou bien mieux se réorienter, arriver à faire des choix qui vont finalement les porter dans leur vie aussi. Et ce que je pense qui est important alors de créer, c'est une sorte d'année où on remettrait à niveau, évidemment sans avoir l'illusion que tout le monde serait égal à ce moment-là non plus, mais redire, voilà, il y a de la matière qui n'est pas vue, pas connue, on va remettre ça à niveau pour qu'on puisse réussir ce test, mais aussi, en plus de ça, arriver à parler de tout ce qui est implicite, c'est-à-dire que on pourrait apprendre à ce moment-là, tiens, qu'est-ce que c'est la démarche scientifique ? Comment est-ce qu'on répond stratégiquement à un QCM ? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à une question universitaire, une question ouverte ? Toutes des choses qui finalement ne sont pas toujours dites et qui aussi font échouer énormément de monde aux examens, notamment au terme de cette première BA.
Je vous arrête. Time's up. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Martine. Deuxième candidat demain.
Oui, deuxième candidat demain, c'est un garçon.
Enfin, deuxième lauréat demain.
Deuxième lauréat demain, oui. C'est un garçon, il s'appelle François Sénessal. Et lui, il parle de la nécessité de s'indigner.
Il sera avec nous dans l'émission à 16h30.
Good music makes people. Pure FM. Vous écoutez Pure FM.
www.purefm.be.
Purefm.be.